Si vous voulez, vous tournez avec moi dans le livre des, deuxième livre des rois. Le premier et le deuxième livre des rois nous rapportent l'histoire des rois d'Israël et de Juda, et surtout de Juda. Mais là, depuis quelques passages, on a remarqué que la tension du Saint-Esprit s'est fixé sur Élisée. Ça tombe bien aujourd'hui. Une mauvaise plaisanterie, mais Élisée, un prophète qui a suivi le prophète Élie, qui avait demandé une double portion de son esprit, pas pour se glorifier, mais pour dire, pour pouvoir faire davantage que lui. Et là, on a le récit de plusieurs de ses miracles. On a vu la semaine dernière comment il avait pourvu pour cette veuve qui n'avait plus rien, juste une petite flasque d'huile, mais par la foi, elle avait été capable, en amenant cette maigre ressource, de nourrir sa famille et d'avoir de quoi rembourser les dettes. Nous avons vu aussi comment Élisée avait prié pour qu'une femme ait un enfant, que cet enfant était mort, mais que Élisée avait pu lui redonner la vie. Et Élisée, nous l'avons dit, c'est un type, une préfiguration de Jésus-Christ qui donne la vie. Aujourd'hui, nous allons terminer ce chapitre 4 avec deux passages, deux miracles qui parlent de la provision au niveau de la nourriture. On nous fait des fois le reproche de ne pas être Calvary-Chapelle, mais d'être Calorie-Chapelle. Ce qui me plaît, c'est que dans la Bible, on voit que les repas, il va y avoir un festin de l'agneau à la fin des temps. La Bible parle souvent de nourriture et de manger. Jésus est le pain de vie. C'est un désir, un besoin que nous avons en nous, que Dieu satisfait, parce qu'il connaît tous nos besoins. Il est Jéhovah Rapha, celui qui pourvoit. Et on va lire ensemble versets 38 à 41. Élisée revint à Gilgal, or il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son jeune serviteur, « Prépare la grande marmite et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » Une famine dont il sera question plus tard, au chapitre 5, mais chapitre 8 et d'autres passages. On vit dans un pays où on se préoccupe plus de perdre du poids que de survivre. Et on peut remercier le Seigneur, en même temps, on se doit de voir que c'est par sa grâce qu'il pourvoit de la nourriture, mais qu'on ne devrait pas s'en gaver et qu'on devrait pouvoir partager, parce qu'il y a des pays où les gens meurent de faim. Et nous sommes responsables d'une façon ou d'une autre d'aider ces personnes. Et là, les fils des prophètes, c'était des étudiants en école biblique, on pourrait dire. Ils étaient là devant Élisée. Ils n'avaient pas grand-chose à manger. Et quand il n'y a pas grand-chose à manger, on peut toujours faire chauffer de l'eau et puis mettre un peu des trucs qu'on trouve dans le placard ou dans le jardin. Et un de ses étudiants était sorti ramasser des légumes dans la nature. Et il avait trouvé une gourde, une coloquinte sauvage, qu'il avait ramassée en abondance, qu'il avait coupée à son retour pour mettre dans la marmite. Mais une chose inquiétante, verset 39, on ne savait pas ce que c'était. Ça, c'est pas un bon signe. Si vous voyez quelqu'un mettre des champignons dans la soupe, vous demandez qu'est-ce que c'est, et qu'il vous dit j'en sais rien, n'en goûtez pas. Verset 40, on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans la marmite !» Alors je vous déconseille de dire ça à votre femme, si elle a préparé quelque chose que vous n'aimez pas. Mais de toute évidence, ils ont eu des malaises, le goût était mauvais, ou ils ont commencé à avoir des crampes d'estomac, ou peut-être se sentir mal. Et donc, en fait, ils ne peuvent pas manger. Et Élisée leur dit, prenez de la farine. Donc, ils avaient un peu de farine, encore une fois. Il y avait quelques restes de provisions. Il en jeta dans la marmite et dit, serre ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. Un miracle culinaire. Waouh ! Je me souviens quand j'étais étudiant, que je commençais à fréquenter Nancy, à Aix-en-Provence. Une fois, je l'avais invité à dîner et j'avais essayé de faire un dîner à partir de la farine. J'avais simplement de la farine et des oignons et de l'eau. Et j'avais essayé de faire un repas avec ça et ça n'avait pas été. Elle n'avait pas crié la mort est dans la marmite. Homme de Dieu, elle ne m'appelait pas comme ça, non. Mais ce qui est intéressant, c'est que un miracle culinaire, c'est merveilleux, mais j'y ai fait allusion en disant que ce qui est plus important que ce qu'on mange physiquement, c'est ce qu'on mange spirituellement. Et beaucoup, et je suis de ceux-là, voient dans ce miracle une analogie spirituelle avec la parole de Dieu qui peut corriger les faux enseignements. Aujourd'hui, si vous allez dans certains endroits, on va vous servir des gourdes sauvages, des choses bizarres. On va vous dire que si vous êtes rempli de l'Esprit Saint, vous devriez être par terre à genoux en train d'aboyer et m'empêcher d'enseigner la parole de Dieu inspirée par l'Esprit Saint. Alors maintenant, c'est passé un peu de mode, ça c'était la bénédiction de Toronto. Mais quand c'est pas la bénédiction de Toronto, c'est celle d'ailleurs, c'est quelque chose d'autre. C'est de la pluie d'or qui tombe sur l'assemblée. C'est les dents en porcelaine qui sont remplacées par des dents en or. Waouh ! Tant qu'à faire, moi, si Dieu fait un miracle, je préférais qu'il me redonne une dent naturelle plutôt qu'une dent en or. Ça brille, mais c'est pas la même chose. Et donc, le seul remède contre ces faux enseignements, c'est pas de les dénoncer. On peut le faire, je le fais souvent, notamment concernant la doctrine de la prospérité qui dit que si vous êtes chrétien, si vous êtes rempli de l'Esprit Saint, Dieu est forcé de vous bénir matériellement, de vous donner la santé, de vous donner la richesse. Dieu peut le faire, et il le fait souvent, Dieu merci, mais il n'est nullement tenu à le faire par ses promesses bibliques. Parce qu'il sait que la vie ici-bas, elle est comme une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité. Et que certes, il peut nous bénir ici, mais ce qui compte, c'est vraiment notre salut pour une vie éternelle. Une vie éternelle, c'est difficile à concevoir pour les humains que nous sommes dans un monde fini. Mais ces faux enseignements vont vous détourner de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous allez venir à Dieu pour les fausses raisons. Peut-être on vous a dit, venez à Dieu et vous serez guéri de toutes vos maladies. Et vous avez une grave maladie et vous venez à Dieu. Et Dieu choisit, parce qu'il est toujours souverain, de ne pas vous guérir ici. Et donc vous rejetez, non seulement vous rejetez ceux qui vous ont dit ça, mais vous rejetez bien souvent tout l'Évangile. Vous dites, bon, ben, si c'est ça le Dieu qui ne me guérit pas, si c'est ça le Dieu qui ne me donne pas la prospérité matérielle, alors je le laisse tomber. Et la seule façon de corriger le mauvais enseignement, la seule façon qui marche, c'est d'enseigner la vérité. c'est de donner la farine, le pain de la parole. Et je ne me fais pas de soucis si vous lisez votre Bible. Je commence à me faire du souci si vous écoutez plus des sermons sur Internet ou dans d'autres églises et que vous ne vérifiez pas que c'est conforme à la vérité biblique. Là, je m'inquiète. Mais si vous me dites, je lis la parole de Dieu tous les jours, je sais que Dieu va vous protéger, Dieu va vous garder de toute fausse doctrine. Grave et même des fois des moins graves. Et il y a des grands principes aussi. Souvent, des personnes vont s'attacher à un passage un peu obscur et en faire une doctrine sur laquelle ils vont s'arc-bouter farouchement, en oubliant le reste du conseil de la parole. Au niveau des rituels, par exemple. Certains vont commencer à s'attacher à des choses extérieures. Alors que le conseil de la parole, c'est que Dieu voit au cœur. Tout l'enseignement de la Bible, c'est que on n'est pas là pour faire de la religion, on est là pour avoir une relation avec Dieu. Et là encore, c'est la farine de la parole. On a l'habitude de l'expression « le pain de la parole » qui est plus solide, mais là, je crois qu'on peut très, très naturellement voir l'image de la parole de Dieu qui, versée dans la marmite des idées qui bouillonnent de toutes parts, va corriger et va vous faire du bien et va rendre le potage mangeable et bénéfique, une bénédiction. Verset 42, deuxième miracle concernant la nourriture. Encore une fois, Dieu prend soin des siens. Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apportait du pain, des prémices à l'homme de Dieu. Les prémices, c'était les premiers fruits, c'était un don qu'il avait fait pour Dieu, qu'il donnait à cet homme, qui pour lui représentait Dieu, 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Élisée lui demanda de le donner à tous les gens qui étaient là, qui étaient affamés. Et son assistant, il n'est pas précisé si c'est Géasi, on a déjà rencontré ce serviteur qui n'est, on le verra surtout au chapitre 5, qui n'est pas très, très louable, qui n'est pas très recommandable. Et lui, ou celui qui est le serviteur, son assistant, dit, a une réaction d'incrédulité. Comment pourrais-je donner à 100 personnes ? En plus, c'est des jeunes étudiants en école biblique qui ont la dalle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 20 pains d'orge ? Élisée lui dit, donne à ces gens qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, il donne la prophétie, on mangera et on en aura de reste. Ils mirent alors les pains devant eux, ils mangèrent et ils en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. On peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Je vous ai dit que Élisée est un type, une préfiguration de Jésus-Christ. Ça vous rappelle sans doute le miracle de la multiplication des pains pour la foule des 5000, pour la foule des 3000 dans les évangiles. Dieu peut multiplier les ressources. Il nous appelle à la générosité. On peut donner et il nous en reste toujours. Et je suis béni, je sais que parmi vous, il y en a qui me donnent des leçons de générosité, qui font confiance à Dieu pour être super généreux, sachant que Dieu honore cette générosité. On ne le fait pas pour être récompensé par Dieu, mais il nous demande d'aimer notre prochain, de faire ce qu'on peut pour l'aider. Ne pas faire ce qu'on peut, c'est un péché pour aider le prochain. Passons au plat de résistance aujourd'hui. Chapitre 5. Un grand passage. Un grand passage pour l'évangélisation. Un grand passage utilisé par des grands prédicateurs. Je me souviens avoir eu le privilège, la chance, entre guillemets, la bénédiction de voir Billy Graham prêcher sur ce passage de Naaman le Syrien, guéri de la lèpre. Lisons ensemble. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens, mais cet homme important était lépreux. Naaman, c'était un grand général qui avait tout pour être heureux dans la vie. Il avait le succès dans son métier. Il avait remporté de grandes victoires. Il était sans doute riche, envié sans doute par beaucoup de soldats et d'officiers qui le servaient et d'autres personnes. C'était une star dans son pays. Dans la Bible, il y a souvent des mets, M-A-I-S. Il y a des mets, M-E-T-S, la nourriture, mais il y a des mets, M-A-I-S. Et tout peut paraître très bien extérieurement. Vous pouvez avoir du succès dans vos entreprises, même dans votre ministère, si vous êtes engagé à temps plein dans le ministère. La question, c'est est-ce qu'il y a des mets, M-A-I-S. Et cet homme important, nous est-il dit, mais cet homme important, il avait un problème, il avait un grave problème. Il était lépreux. Il avait la lèpre. S'il avait été juif, israélite, il n'aurait même pas pu avoir cette activité. Il aurait été isolé, rejeté. La lèpre était une maladie terrible. Alors, on ne sait pas si c'est exactement, ça peut être une maladie de peau, mais c'est la lèpre telle qu'on la connaît aujourd'hui, pour laquelle on a des traitements qui peuvent arrêter l'évolution de la maladie. La lèpre est une maladie terrible parce qu'elle rend insensible au toucher les terminaisons nerveuses de vos membres. Et ainsi, vous pouvez, si vous avez la lèpre sur vos pieds, vous ne sentez plus sur quoi vous marchez. Vous allez marcher sur des morceaux de verre, vous faire du mal, sans vous en rendre compte. La même chose pour vos mains. Et ainsi, la maladie va pouvoir progresser jusqu'à vous rendre complètement infirme, et elle peut même entraîner la mort. Il y a une œuvre évangélique, je le signale, on n'a pas tellement de courriers récemment, mais qui existe toujours, j'en suis à peu près sûr, qui sollicite l'aide des chrétiens, parce que pour une somme très modique, on peut avoir un traitement qui permet d'arrêter l'évolution de cette maladie terrible. Cette maladie est aussi terrible parce qu'elle affecte l'aspect extérieur des personnes. Commencez par un petit point blanc sur votre peau, puis si c'est vraiment la lèpre, ça va grandir et vous allez avoir des croûtes blanches sur vos membres. Et on remarque que vous avez cette maladie. Cet homme qui avait tout pour réussir, il avait cette maladie de la lèpre. La lèpre, dans la Bible, même si elle n'est jamais directement comparée au péché, on peut lire dans les textes du Lévitique notamment, qu'elle est par bien des égards comparable au péché. parce qu'elle est, elle commence par quelque chose de petit, elle nous rend insensible, elle rend notre conscience insensible à certaines choses. Ça, c'est un des effets terribles du péché, c'est qu'il nous rend insensible à ce qui est mal et à ce qui est bien. Des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire. Une fois qu'on a franchi le pas une première fois, la deuxième fois, c'est beaucoup plus facile de le faire. Et ça peut devenir une habitude, un péché habituel. Ça peut conduire à des choses plus graves sans qu'on en ait conscience. Comme la lèpre. Le péché, comme la lèpre, nous isole. Le péché nous isole des autres. On est rejeté. Il nous isole surtout de Dieu, de sa communion, de la communion avec Dieu. Et on va voir qu'en fait, on va pouvoir développer cette comparaison entre Naaman, le Syrien, et chacun de nous, avant qu'on ne rencontre le Seigneur. On est tous des lépreux. Même le plus beau des petits bébés, quand il naît, il a cette lèpre du péché en lui. Pourquoi ? Parce que c'est hérité de nos ancêtres. C'est entré dans nos gènes. On n'est pas pécheur parce qu'on pêche, on pêche parce qu'on est pécheur. Autrement dit, c'est pas parce que on commet une faute grave qu'on le péché nous tombe dessus. C'est parce que tout petit, grâce à nos ancêtres, merci Adam et Ève, on a cette disposition en nous qui fait que dès que l'occasion s'en présente, elle va se révéler, le péché va se révéler, et le plus beau, le plus mignon des petits bébés, quand il pleure et qu'il fait pique une colère parce que sa maman ne le change pas assez vite, je vois des mamans qui sourient parce qu'elles savent que c'est vrai. Si l'enfant avait un bouton sur lequel il puisse pousser pour faire exploser la maman, il ne s'en priverait pas. Il ne penserait même pas qu'en faisant exploser sa maman, il se prépare des lendemains difficiles, parce que la colère l'emporterait sur tout raisonnement. Vous demandez des fois à quoi ils pensent quand ils sont tout petits. Comment je vais faire venir maman plus vite? Si seulement j'avais un bouton rouge. Le péché, il est dans la race humaine et touche autant que nous sommes pasteurs, évangélistes, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Hommes ordinaires, femmes ordinaires, grands politiciens, petits politiciens, candidats, pas candidats, docteurs, manœuvres. Toute la condition humaine est affectée par le péché. Nous sommes tous des lépreux comme Naaman. Verset 2. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son seigneur en ces termes. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Un très bel exemple de témoignage. Cette jeune fille, petite jeune fille prisonnière, esclave. Il n'y avait pas la guerre complètement entre Israël et la Syrie, mais il y avait des escarmouches, il y avait des problèmes aux frontières, et de temps en temps, il y avait une incursion. Et là, cette jeune fille avait été prise, et elle avait été mise au service de la femme de ce grand général. J'aimerais qu'on puisse connaître son prénom. Ça me manque de pas la connaître le prénom. Ce serait un prénom sans doute que beaucoup de chrétiens donneraient à leurs fille, pas pour qu'elle soit captive, mais pour qu'elle soit un témoin efficace et fidèle et humble. L'humilité, c'est la plus belle des qualités. L'orgueil, c'est le plus terrible des péchés. L'humilité dit, je vaux pas mieux que les autres, je peux m'associer à eux, ce sera moi qui serai le moindre parmi eux. L'orgueil isole parce qu'il dit, je suis le meilleur, personne n'est aussi bien que moi. Je pense que le Saint-Esprit ne nous a pas donné son nom en correspondance avec sa disposition de cœur. Elle ne cherchait pas la gloire, elle ne cherchait pas à être célèbre, à dire « je suis tellement efficace comme évangéliste, je parle et les gens sont sauvés, vous êtes bénis de m'avoir parmi vous ». Non, elle avait de la compassion pour cet homme qui souffrait. On peut penser que Naaman et sa femme étaient de bons maîtres, parce que de toute évidence, elle voulait du bien. Elle voulait du bien à son maître. Elle a à cœur de dire à sa maîtresse, « Je connais quelqu'un qui pourrait guérir Naaman. » Je connais un prophète à Samarie, donc en Israël, et lui, il pourrait débarrasser Naaman de sa lèpre. Naaman vint le rapporter, verset 4, à son seigneur, c'est-à-dire au roi de Syrie. On pense qu'il s'agissait de Ben-Hadad II, le second, il y en avait eu un premier avant lui. À l'époque, à Jérusalem, c'était le roi Joram. Et elle va, donc, une fois que Naaman a appris cette nouvelle par sa femme, qu'il a tenu de cette jeune fille si humble dans son témoignage, qu'il en parle au roi, et le roi lui dit, c'est bon, va à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent. Un talent, c'était l'équivalent de 34 kilos. 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Une somme, des richesses énormes. Certains aiment bien se livrer à des comparaisons. Et en euros, on pourrait penser que c'est l'équivalent d'1 million d'euros. Le roi de Syrie était sans doute un ami de Naaman et aussi peut-être il avait intérêt à ne pas laisser mourir ce grand général qui lui donnait des victoires sur les ennemis alentours. Donc il lui donne la permission et, raisonnant comme un grand de ce monde, il dit « T'en fais pas, je vais te donner une lettre de recommandation ». Il écrit donc une loi à son homologue, on oublie le prophète, on parle de roi à roi, et Naaman apporte au roi, verset 6, il apporte au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » On peut penser que Naaman avait rapporté avec précision le fait que c'était un certain prophète à Samarie qui pouvait guérir. Mais le roi de Syrie pense que c'est le roi d'Israël qui utilise quelqu'un, mais que c'est lui qui détient le pouvoir de guérison. Du coup, verset 7, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements, c'est un signe d'angoisse, de stress terrible, et dit « Suis-je Dieu ?» pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi, que je débarrasse un homme de sa lèpre. Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. La confiance règne entre ces deux rois. L'un demande à l'autre de soigner son général et l'autre se dit, mais il se moque de moi, il sait bien que je ne peux pas guérir. En fait, il fait ça, c'est une... il faut que je me méfie, il y a Anguille sous roche, il va venir pour m'attaquer ou il veut se disputer avec moi. Heureusement, verset 8, Élisée apprend que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements et il envoie dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. Élisée, de façon surnaturelle ou peut-être par des gens qui lui racontent ce qui s'est passé, se rappelle au bon souvenir du roi Joram, le roi qui ne pensait même pas à lui. Vous vous souvenez, il était un de ces prophètes qui disait toujours ce que le roi ne voulait pas entendre. Donc il ne pensait même pas aller le chercher. Et Élisée lui dit, toi tu ne peux pas le guérir, mais Dieu peut le guérir à travers son prophète. Naaman, verset 9, vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant, « Voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom d'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Armana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retourna donc et partit avec en fureur. Ce grand général, avec tout son entourage et son argent, son 1 000 000 d'euros, qu'il était prêt à donner au roi en récompense de sa guérison, accepte d'aller voir quelqu'un à Samarie, aller voir Élisée. Et ce qui est remarquable, c'est que Élisée ne se dérange même pas en personne pour aller le voir à sa rencontre. On peut imaginer que ça a outragé ce grand roi. Quoi, vous m'envoyez un assistant et il ne peut même pas se déplacer, le grand prophète? Et puis le messager, ce sous-fifre, ce subalterne de bas étage, donne le remède à Naaman en lui disant « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, va te tremper 7 fois dans le Jourdain. » Et tu verras, ta chair deviendra saine, tu seras pur, tu seras guéri. Le Jourdain, pour ceux qui sont déjà allés en Israël, c'est pas le Mississippi, c'est pas l'Amazone. C'est le paillon un jour de petite crue. C'est très étroit, c'est pas une grande rivière, c'est une rivière boueuse. C'est presque aussi large que l'avenue Aimé Martin. C'est pas impressionnant. Et le réflexe de Naaman, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il veut que je me trempe dans cette eau boueuse alors qu'on a des belles rivières, l'Amana et le Parpar. Alors pour ceux qui sont comme Tonio des fans de Wikipédia, on peut aller voir des photos du Lamana et du Parpar sur Wiki ou sur Internet. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus vert, beaucoup plus limpide, ces rivières qui ont des noms modernes, la Bardara ou la Bardane. Et la rivière El Awedj pour le Parpar, qui se jette dans un lac splendide au sud de Damas. C'est des endroits splendides où on aimerait faire passer des vacances ou faire des grands pique-niques. Mais il est insulté par la simplicité du remède. Parce qu'il est comme beaucoup de nous, il veut bien croire que Dieu va peut-être agir, mais il a déjà imaginé, ou il sait déjà comment Dieu va devoir agir. Alors on peut se moquer de lui, parce qu'il disait, voilà ce qui va se passer, il avait son petit cinéma dans sa tête. Il se disait, ce grand prophète va sortir devant moi, il va s'incliner sans doute, il va se présenter lui-même. Il ne va pas envoyer quelqu'un, il va venir me voir, me saluer avec tout le respect que je mérite. Et puis il va prier, comme je sais qu'on prie, « Oh, Seigneur Jéhovah, toi le Tout-Puissant !» Et puis il va mettre sa main, il va m'imposer les mains, faire des grands gestes sur moi, comme on voit à la télé. Vous avez déjà vu les grands évangélistes, les faux grands évangélistes? Oh, et tombe, oui, oh là, la puissance de Dieu. Quel scandale! Regardez comment le prophète va agir. Va te plonger 7 fois dans l'eau, humblement. Et puis, il y aura une guérison spectaculaire, se disait Néhéman. D'un seul coup, après tout ce cinéma, tadam, je vais sortir, je vais briller, je vais être guéri. Pas du tout, il m'envoie, il vient même pas me voir. Il me dit d'aller me tremper dans cette eau boueuse, mais il se fiche du monde. Et il s'en retourne et est parti en fureur. Il est prêt à retourner chez lui sans être guéri. Heureusement, il avait des serviteurs intelligents et humbles qui lui disent « Mais mon père, c'est une façon de lui dire, attends, c'est une façon de humble de le ramener à un état d'esprit plus calme et beaucoup de discernement. Si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, si tu avais demandé de monter sur le mont Chauve à genoux à reculons, 7 fois, je parie que tu l'aurais fait. Donc à plus forte raison, si tu étais prêt à faire quelque chose de très compliqué, de très complexe et difficile, qui te coûte, je parie que tu l'aurais fait. Mais là, il te demande quelque chose de simple, pourquoi tu le fais pas ? Lave-toi et sois pur, fais-le. Verset 14, le général condescend, il avait encore un peu de jugeote, ses serviteurs avaient pu toucher sa raison, et il doit se dire, oui c'est vrai après tout, ça serait bête de revenir, qu'est-ce que j'ai à perdre après tout ? À part son honneur, fort l'honneur. Mais là, il était prêt à manger son honneur. Il était prêt à s'humilier. Verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Une fois, je vois que de la boue sur moi. Deuxième fois, je me suis toujours ces taches. 3 fois, 4 fois, il a dit 7 fois. 7e fois, oh! J'ai une peau de bébé cadom, le bébé palmolive. Oh, alléluia, alléluia. Et il fut pur. Nous aussi, nous devons nous humilier pour être guéris de la lèpre du péché. Les hommes aiment bien penser qu'ils vont pouvoir mériter cette guérison du péché. Ils pensent que s'ils font des grands sacrifices, s'ils donnent beaucoup à l'Église, d'abord on va nommer la petite chapelle en leur honneur, et puis Dieu va être obligé d'accéder à leurs demandes, de répondre à leurs requêtes. Ils vont faire des sacrifices à la hauteur de de leurs problèmes et Dieu va être obligé d'agir. Donner de l'argent. Aller servir Dieu très loin dans un pays étranger. Faire des sacrifices. Jeûner en le faisant savoir pour pas que ce soit perdu pour tout le monde. Pour servir d'exemple. Et Jésus nous dit, sa parole nous dit, son esprit nous dit, crois seulement au Seigneur et tu seras sauvé. Attends. Simplement croire à Jésus-Christ et à son sacrifice et je vais être sauvé, c'est trop simple ça. Ça ne peut pas marcher. Vous vous souvenez des serpents venimeux dans le désert et Dieu avait, une partie des Juifs s'était révoltée, Dieu a envoyé des serpents très venimeux qui faisaient mourir les gens qui étaient piqués par eux. Et Moïse avait reçu un remède de la part du Seigneur de mettre un serpent d'airain sur un bâton. Un serpent en bronze. Et il est dit que ceux qui regarderaient le serpent seraient guéris. Là aussi, c'est pas compliqué de regarder, de tourner les yeux vers un bâton sur lequel il y a un serpent. Mais seuls ceux qui ont cru à la simplicité du remède ont été guéris. On vit dans une société où l'homme recherche des solutions à tous les problèmes de l'humanité par la politique, l'économie, la science, l'instruction, la médecine. Dieu nous dit, regardez à Jésus, vous tous les confins de la terre et vous serez sauvés. Et on dit non, ça c'est trop simple. Moi je veux faire quelque chose, je veux participer quand même, je ne vais pas bénéficier comme ça, je ne vais pas être profiteur de la mort de Christ comme ça. Désolé, c'est le seul chemin, parce que c'est le chemin de l'humilité. Vous avez remarqué que, on le verra plus tard, que Élisée n'a cherché aucunement la gloire. Il aurait pu jouer un peu sur la rencontre, avoir les médias, la télé, en train de les photographier. Le grand général rencontre le grand prophète, ça aurait fait monter le nombre de ses tweets, ce Twitter. Non, il dit, va lui dire de se tromper 7 fois. Et tu peux lui dire que la 7e fois qu'il se ressortira de l'eau, il sera guéri. Quelqu'un a dit, le premier R du réveil, c'est la repentance. C'est de s'humilier. Si nous venons à Christ, en nous humiliant devant lui, il nous guérit complètement. Et la peau de votre bébé, de votre être spirituel, elle redevient pure, rose et belle, ou noire et belle, ou jaune et belle, suivant votre âge, je suppose, ou la couleur de votre peau, et elle est parfaite. Comme un bébé, vous avez retrouvé votre virginité morale, spirituelle, complètement. Est-ce que vous le croyez, ça? L'ennemi veut nous tromper en nous disant, mais regarde, attends, c'est beau, tu prêches ça, Pierre, mais attends, et ça, bon, ça va. Il est fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés, de nous laver de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. On dit, ah oui, je vais aller jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle sur un âne. Je vais aller combattre les infidèles à Jérusalem avec les croisés. Je vais mériter le pardon de Dieu. Et Dieu dit, trempe-toi 7 fois et tais-toi. Sois reconnaissant. Verset 15. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Il reconnaît que Dieu est Dieu, que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël est le vrai Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et ça, c'était le but du prophète Élisée. C'est que cet homme soit sauvé et qu'il reconnaisse que Dieu est Seigneur, que Jésus est Seigneur pour nous qui sommes au bénéfice de l'explication du Nouveau Testament. Et il fait quelque chose de naturel, il veut récompenser celui par qui le salut est arrivé, même si c'est Dieu qui l'a soigné, Dieu qui l'a guéri. Il lui dit, « Maintenant accepte, je te prie un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée refuse, verset 16, « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. » Vous vous souvenez, c'est une phrase qui revient souvent dans la bouche d'Élisée, dans la bouche des prophètes. « Je ne suis pas là à pouvoir faire n'importe quoi, je suis devant Dieu. » Et nous sommes tous devant Dieu à tout moment de notre vie, à tout moment de la journée. L'Éternel devant qui nous nous tenons est vivant. Donc il n'est pas question que j'accepte un cadeau, un remerciement financier. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Il a refusé de façon intelligible et catégorique et compréhensible. Parce que nous savons tous qu'il y a la façon de refuser, qui veut dire, si vous insistez encore quelques fois, je vais accepter. Oh non, merci, non, c'est trop, non, je vous en prie. Non. Vous ne demandez pas une deuxième fois? Non, c'est bon, non, franchement. On est fort pour ça. Hein. Mais Élisée ne veut pas que l'homme guéri puisse attribuer cette guérison à Élisée. Il ne veut pas que la gloire lui revienne. C'est un danger lorsque nous partageons l'évangile avec quelqu'un, que cette personne dise « c'est grâce à toi ». Que la personne nous mette sur un petit piédestal. Et nous sommes invités à redescendre en vitesse et à dire, oh non, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui agit. On a des bonnes relations avec nos voisins et sans cesse on doit leur dire, non, c'est pas Nancy qui est formidable, c'est pas Pierre qui est formidable, c'est pas Jean-Claude qui est formidable, c'est pas Paul qui est formidable, ni Elisabeth, c'est le Seigneur que nous servons. Et si on dit, oh oui, je sais, honte à nous, Dieu ne veut pas partager sa gloire avec aucun homme. La gloire lui revient, la gloire lui appartient. Qui sommes-nous? S'il nous utilise, nous pouvons lui dire merci et c'est tout. Ne pas attirer l'attention sur nous-mêmes. Élisée, il brille par son absence, par son refus de recevoir une récompense. Verset 17, Naaman va faire une... C'est un nouveau croyant. Il va faire une erreur que beaucoup de nouveaux croyants, font. C'est d'imaginer que Dieu est limité. À ce soir, dans la salle, quand l'équipe de louanges s'est avancée, j'ai senti vraiment la présence de Dieu. C'est vraiment la maison de Dieu ici. Mais lundi, je repars au travail, ça va être difficile. Donc Dieu sera avec vous au travail comme il est ici, présent. Il faisait ce que faisaient les gens de l'époque. Ils pensaient que les dieux avaient une puissance territoriale. Quelqu'un disait à Manu, qui faisait une classe, qui donnait son cours sur l'évangélisation en annonçant aux personnes qu'elles ne sont pas des bonnes personnes parce qu'elles violent la loi, les 10 commandements. Quelqu'un lui a dit, oui, mais ça, c'est un peu, ça doit marcher aux États-Unis où les gens sont imprégnés de culture chrétienne, mais ici en France. Et Manu a très justement répondu, non, c'est pas une question d'États-Unis, de France, de Corse, d'Espagne, de Colombie. C'est une question de péché dans le cœur. Nous savons, tous les hommes savent qu'ils sont des pécheurs dans leur cœur. Parce qu'ils ne respectent même pas la loi qu'ils se donnent eux-mêmes. Je vais arrêter de manger trop. Je vais perdre du poids. Ça, c'est le 31 décembre. Le 31 décembre de l'année suivante, à cette année, c'est bon. Vraiment, je n'ai plus rien à mettre. Je ne veux pas racheter des vêtements. Je vais maigrir. Nous sommes si faibles par nous-mêmes. Et je vous en prie, pas de remarques malveillantes les uns envers les autres. Là. Il lui dit, je vais prendre de la terre d'ici, je vais emporter un bout de moquette là. Comme ça, je pourrai m'agenouiller à la maison sur un bout de moquette consacré. Où je veux de l'eau bénite. Là, on voit encore toute la puissance de la religion qui continue à faire vivre ces mythes. Il faut faire brûler un cierge à Sainte Rita. Dieu n'est pas dans un temple, il est bien trop grand pour être enfermé à l'église de Sainte Rita ou à l'église du vœu. Dieu est partout. Dieu est au milieu de nous. Dieu est en moi si j'accepte son Fils et son sacrifice. Et là, il a une vraie conversion parce que il dit qu'il ne veut plus offrir de sacrifices. Il en a marre des faux dieux, des holocaustes, des faux dieux. Il ne veut plus rien faire que pour le vrai Dieu à l'Éternel. Puis dit verset 18 que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur, quand mon patron, le roi de Syrie, ira dans le temple de Baal Rimon, le faux roi, pour s'y prosterner, qu'il s'appuiera sur moi, sur ma main, pour que je me prosterne aussi, je le ferai, mais ça voudra rien dire. Si je suis invité par le maire à aller à l'église de Sainte Rita, j'irai, mais sache que ça veut rien dire. Je crois qu'en Dieu, le vrai Dieu d'Israël, le vrai Dieu de la terre et des cieux. Élisée lui dit, va en paix. Il le quitta et parcourut une certaine distance, sous-entendu avec lui. Il ne répond pas directement à sa question sur le compromis qui va consister à aller dans, même si son cœur n'y est pas, aller extérieurement donner l'impression qu'il se prosterne devant un faux Dieu. Élisée lui souhaite simplement, je crois, par ce va en paix, un bon voyage. Nous aussi, donc, nous devons nous humilier. Nous pouvons avoir beaucoup de réussite sociale, être beau, jeune, fort, en bonne santé, plein d'avenir, etc. Et pourtant, tous, nous pouvons dire « mais ». Il y a du péché dans mon cœur. Mais je suis malade, je suis lépreux. Mais si nous venons à la croix dans l'humilité et que nous lui demandons de venir le prendre, le contrôle de notre vie, alors nous sommes guéris et il le fait. Mais ça passe par l'humilité. La fin du chapitre nous donne une triste image de son serviteur, on va lire ensemble. Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit « Voici, mon Seigneur a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Il devrait savoir que Dieu le voit. Je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. Lui, il utilisait l'expression « l'Éternel est vivant » pour dire « bon sang de bonsoir, je ne vais pas laisser passer une occasion pareille ». Il y a ce gars qui est prêt à donner 1 million d'euros qu'on pourra utiliser pour plein de bonnes choses. Mon maître, il est bien gentil, mais il manque vraiment de sens pratique. Il n'est pas très sage. Verset 21, alors Géasi se mit à la poursuite de Naaman. Naaman le voit courir derrière lui et il se précipite au bas de son char pour aller à sa rencontre et lui demander « tout va bien ?» Verset 22, « Ouais, tout va bien, mais mon Seigneur, il ment de façon éhontée. Il ment devant Dieu parce qu'il a dit que Dieu est vivant, l'Éternel est vivant. » Et il fabrique une histoire. Il fabrique une histoire où il dit que il y a 2 jeunes hommes qui sont venus pour être à l'école biblique. Ils viennent de loin, des monts d'Éphraïm. Mais ils ont vraiment besoin qu'on les aide financièrement. Si tu peux vous donner un talent d'argent, et puis des vêtements de rechange, 2 vêtements de rechange. C'est une chose terrible que de profiter de jeunes croyants pour les exploiter. Et on a eu malheureusement il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, je ne vais pas préciser exactement, quelqu'un qui a mis la pression sur un jeune croyant pour lui dire « mais tu devrais pouvoir m'héberger, tu devrais pouvoir m'aider financièrement, tu as du travail, moi j'en ai pas ». Et qui a fait un chantage à la moralité du chrétien. Et ça, c'est quelque chose d'abominable, de profiter de l'enthousiasme des jeunes chrétiens pour s'en servir à des fins égoïstes et véreuses. Encore une fois, l'Éternel est vivant, l'Éternel Dieu voit ce qui se passe. Comment penser qu'on peut ainsi exploiter les nouveaux croyants? Ça peut se passer parmi nous, ça peut se passer à la télévision chrétienne où on voit tous ces faux prophètes, ces faux évangélistes qui demandent que vous leur envoyiez votre argent, qui vous disent qu'ils vont prier si vous envoyez votre nom et pendant que vous y êtes, pourquoi pas donner un petit don à leur ministère qui fait tellement de bien. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il va pourvoir si le ministère est authentique, si le ministère est réel. Et le pauvre Naaman, pauvre, il n'était pas pauvre, mais il tombe dans le panneau, il se fait piéger, consent à prendre 2 talents. Tu m'as demandé 34 kilos d'argent, moi je t'en donne 68 kilos. Prends-les, je t'en prie. Oh, il faut qu'il insiste. Il met cet argent dans 2 sacs, il donne des habits de rechange. À l'époque, un habit, c'était très rare d'avoir de quoi s'habiller correctement, d'être présentable pour aller dans une cérémonie religieuse ou rencontrer des gens haut placés. Donc il met ça dans ses sacs, et c'est tellement lourd qu'il est obligé de lui donner 2 jeunes gens de sa suite pour les porter pour Géasi. Arrivé à la colline, verset 24, Géasi les prit de leurs mains, il pouvait les porter, mais il les déposa avec soin dans la maison, dans sa maison, et il renvoya les hommes, ni vus ni connus, pensait-il. Verset 25, puis il vint lui-même et se présenta devant son Seigneur Élisée, lui dit, son Seigneur Élisée qui lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Oh, il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Il faut être un peu, manquer beaucoup de foi ou être un peu fou pour mentir au prophète qui voit tout. Il ne voyait pas tout, mais souvent il recevait des visions, des mots de sagesse, des paroles de connaissance, et il savait pertinemment que son serviteur lui mentait. Verset 26. Ma pensée n'était pas absente lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes? Là, on pense qu'en fait, Élisée lisait dans le cœur de Géasi ce qu'il entendait faire avec l'argent. Tout cet argent, c'était énorme. C'était 64 kilos d'argent. Je n'ai pas regardé le cours de l'argent aujourd'hui, mais même aujourd'hui, ce serait une somme énorme. Et puis il lui dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige. On ne se moque pas de Dieu. Dieu punit de façon spectaculaire, aussi miraculeuse qu'il avait guéri Naaman, en faisant tomber la lèpre sur ce serviteur indigne. Un commentateur a résumé la situation en disant « On voit un païen qui, par un acte de foi, est guéri de la lèpre et un Israélite qui, par un acte déshonorable, est maudit par cette lèpre. » La guérison de Naaman, c'est notre guérison à tous lorsque nous venons à Jésus-Christ humblement pour lui demander pardon et par la foi recevoir ce pardon, cette vie éternelle. Nous ne pouvons pas venir avec lui avec les œuvres de la chair. On ne peut pas venir avec les millions d'euros pour lui acheter le pardon tout en restant fier et égoïste, nous devons nous humilier devant lui. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette histoire, une histoire authentique, Seigneur, mais qui est une illustration spirituelle tellement forte sur les conditions de notre salut. Seigneur, tu sais que peut-être parmi nous, il y a des Naaman qui ne se sont pas encore trempés dans l'eau du Jourdain cette fois. Autrement dit, qui ne sont pas venus à Christ pour recevoir son pardon après sa résurrection et son sacrifice sur la croix. Seigneur, parle à leur cœur. L'Éternel que est vivant. Il voit tout, il voit nos cœurs et Seigneur, nous te demandons de toucher ces cœurs qui ont besoin de ton pardon. Si vous voulez, comme Naaman, être guéri de la lèpre du péché aujourd'hui, vous pouvez prier en silence cette prière avec moi pendant que nous sommes tous dans le recueillement. Seigneur, je reconnais que j'ai cette lèpre du péché, que j'ai besoin de ta guérison, de ton pardon. Je reconnais mes péchés passés. Je te demande de me pardonner. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés passés, présents et futurs, et que tu es ressuscité d'entre les morts. T'ouvre la porte de mon cœur, je t'invite à venir prendre le contrôle de ma vie. Seigneur, je Je reconnais, je réalise que je ne peux rien faire pour mériter ton pardon, pour mériter mon salut. C'est seulement parce que tu as porté mon péché sur la croix et que tu es ressuscité que je peux être pardonné. En toi seul, je mets ma foi pour la vie éternelle. Merci de faire de moi la personne que tu veux. Merci d'entendre ma prière et d'y répondre. Merci pour le don de la vie éternelle. Si vous avez prié cette prière, je vous demanderai de lever la main. Le Seigneur vous voit, le Seigneur vous pardonne, vous guérit. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen.